France Culture.
L'homme a entendu des bruits de pas dehors, des voix, des sifflements comme ceux d'un oiseau. Il sort, mais rien, trop tard ou trop tôt. Des gens étaient là, tout près. Il remarque des traces autour de la maison. C'est tout. Et aussi quelque chose comme une offrande déposée sur le seuil. Cailloux, morceaux d'écorce et les 7 couleurs tracées sur la pierre. Ce peu de choses, dit-il, c'est tout un livre.
France Culture, le Book Club, Mathilde Wagman.
Manœuvre de chantier, maçon, ouvrier agricole, Thierry Metz est mort en 1997 à l'âge de 40 ans, laissant derrière lui une œuvre poétique encore trop méconnue. Si son journal d'un manœuvre paru en 1990 eut quelques renommées, il masque l'ensemble d'un travail qui se joue quelque part entre les mots vides et les choses muettes. Une poésie dense, profonde, faite de textes courts qui laissent une large place au silence, à la matérialité des choses, aux heures du jour, au travail, et fait du même coup entrer en poésie ce que cette dernière a longtemps négligé. Gallimard rassemble dans un volume 6 recueils du poète introduit et postfacé par Isabelle Lévesque et Éric Vuillard. Ils sont nos invités. En fin d'émission, Raphaël Bott viendra nous parler de littérature jeunesse et en ses vacances de la Toussaint, elle nous emmène en forêt avec taupe et mulot. Vous avez le programme, nous sommes ensemble pour une heure. La table est mise, l'assiette est nue. Bienvenue à toutes et à tous dans le Book Club. Isabelle Lévesque et Éric Vuillard, bienvenue dans le Book Club. Bonjour à tous les deux.
Bonjour Mathilde.
Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour évoquer ce recueil « Lettres à la bien-aimée et autres poèmes ». C'est son titre. C'est le 586e volume de la fameuse collection Poésie de Gallimard. Le volume rassemble 6 recueils de Thierry Metz. Et puis, je signale d'emblée une autre actualité en lien avec cette œuvre, la sortie numérique et en DVD du très beau documentaire que Marie-Violaine Brancard et Olivier Durie ont consacré à l'œuvre de Thierry Metz. Le film s'appelle « L'homme qui penche », qui est aussi un titre d'un autre recueil de Thierry Metz. C'est une tentative très réussie, assez éblouissante, je dois dire, de donner à voir de la poésie dans un film de cinéma. Le DVD est édité par Survivance et on peut aussi le voir en ligne sur différentes plateformes. Isabelle Lévesque, vous êtes poète vous-même, critique littéraire à la Nouvelle Quinzaine littéraire et enseignante. Vous éclairez dans une riche préface à la fois la nature et le contexte d'écriture de chacun de ces recueils et vous nous présentez de façon plus générale le travail de Thierry Metz. Éric Vuillard, on connaît bien sûr votre travail d'écrivain. Vos livres sont publiés chez Actes Sud. Vous êtes l'auteur, entre autres, de 14 juillet, de l'Ordre du jour qui vous avait valu de recevoir en 2017 le prix Goncourt ou encore d'une sortie honorable, votre tout dernier livre paru il y a 3 ans. Mais c'est donc aujourd'hui comme lecteur fervent de l'œuvre de Thierry Metz que l'on vous reçoit. Vous une postface qui s'appelle « Le déchirement du langage et des choses ». On y reviendra, mais pour ouvrir notre discussion, je voudrais vous demander tout simplement à l'un et à l'autre comment vous avez découvert cette œuvre, comment le travail de Thierry Metz est venu sous vos yeux, Isabelle Lévesque.
Alors moi, je ne connaissais même pas le nom de Thierry Metz. Je l'ai découvert vraiment par hasard, par ses poèmes, sur le site d'un de ses éditeurs, Pleine Page. Et j'ai été happée véritablement par des extraits de Terre qui figuraient sur ce site. Et j'ai été très impressionnée. Vous citiez justement en début d'émission un poème de Thierry Metz, « Ce peu de choses, c'est tout un livre ». Et c'est exactement cela. Je me suis demandé comment on pouvait, avec une telle réduction de mots, produire une telle lumière et un tel déchirement.
C'est un extrait du film dont je parlais, justement, dans la voix d'Olivier Durie, l'un des réalisateurs de ce film. Ouais.
Et donc, c'était en 2009 à peu près, et j'ai proposé des poèmes à une revue qui s'appelle Dierez, des poèmes parmi lesquels il y avait un hommage à Thierry Metz. Et j'ai parlé de Thierry Metz au directeur de la revue, Daniel Martinez, et nous avons envisagé de faire un dossier sur Thierry Metz. Au départ, ce devait être quelque chose de tout à fait réduit, quelques pages. Et puis en fait, au fil du temps, nous nous sommes aperçus que on pouvait rassembler des témoignages, images, des lettres, des photographies, des textes inédits, et c'est devenu tout un volume double, paru en 2011, et il nous a même fallu un second volume un an plus tard, en 2012, pour continuer à explorer non seulement la poésie de Thierry Metz, mais aussi ceux qui l'avaient côtoyé par des témoignages qui étaient assez bouleversants, parce que finalement on a assez peu d'éléments sur sa vie. Donc ensuite, dès que je l'ai pu, dans les différentes revues pour lesquelles j'ai travaillé, puis en particulier pour la Nouvelle Quinzaine Littéraire, dès qu'il y a eu une nouvelle publication concernant Thierry Metz, j'ai écrit un article, parce que c'était vraiment dans un enthousiasme et dans une ferveur toujours renouvelée. Et en plus, on n'épuise pas les textes de Thierry Metz. En fait, à chaque fois qu'on revient vers les poèmes, on trouve des choses nouvelles, un nouvel éclairage, et c'est merveilleux, en fait. On tient la merveille.
La ferveur, c'est peut-être ce qui lie tous les lecteurs de Thierry Metz. Parce que c'est vrai qu'on est très saisi d'emblée dès qu'on le découvre par la puissance de ses textes. Et vous, Éric Villard, comment vous l'avez découvert ?
J'étais chez des amis qui ont beaucoup de livres, des piles de bouquins. Je dormais chez eux et puis je regardais les différents titres. J'étais attiré par le journal d'un manœuvre et je croyais lire un récit. Et en fait, j'ai eu le sentiment très vite de lire un poème, mais qui était aussi un récit. Et cette forme, au fond, très singulière, m'a aussitôt saisi, puisque finalement, dans toute l'œuvre de Metz, il y a comme deux choses qu'il veut pas du tout lâcher, qu'il veut tenir. Un rapport à la vie matérielle, au travail manuel, mais aussi à l'activité quotidienne, faire le linge, mettre la table, s'occuper des enfants, etc. Et en même temps, la poésie elle-même, le langage, la ferveur peut-être que vous évoquez, mais enfin, finalement, elle est des deux côtés. Parce que j'ai eu le sentiment tout de suite qu'il y avait comme une double injonction, c'est-à-dire que Metz ne pouvait pas trahir à la fois l'origine sociale qui était la sienne, son activité précaire, au fond, de travailleur manuel, et d'un autre côté, ne pas non plus trahir la poésie et devenir uniquement un chroniqueur social. Et donc, toute sa poésie, toute son œuvre tient, je crois, dans la cristallisation de cristalliser une contradiction sociale que nous connaissons d'une certaine manière tous.
Alors justement, peut-être pour rebondir sur l'idée de cette contradiction sociale, on peut quand même si on a peu d'éléments sur sa vie, comme vous le disiez Isabelle Lévesque, présenter en quelques mots sa biographie. Je le disais, il est né en 1956, était d'un milieu très modeste. Qu'est-ce qu'on peut dire comme ça sur son parcours ?
Oui, alors on peut effectivement tracer ce parcours, souligner ses origines très modestes, et on est quand même amené à penser que rien ne le prédestinait à devenir poète. Il y avait très peu de livres chez lui. Lui-même a commencé à lire vers l'âge de 14 ans, encouragé en cela par un professeur, par un enseignant. Ce premier contact avec la lecture date probablement justement de l'adolescence.
Il a grandi en région parisienne. Il me semble qu'il est né à Paris et qu'il était dans les premières années de sa vie en région parisienne, avant de quitter la région parisienne.
Son père était chauffeur-livreur à Paris.
Voilà.
Il a interrompu ses études en terminale. Il n'a pas passé son bac. Il obtiendra cet examen en candidat libre un petit peu plus tard. Et il y a une date très importante. C'est qu'en 1977, il s'installe en fait à Saint-Romain-le-Noble, près d'Agen. Donc dans une maison qui va jouer un rôle crucial dans son œuvre, puisque ce sera le centre du foyer, donc qui peut être perçu de manière à la fois positive ou comme un danger. Éric Vuillard soulignait justement les contradictions et les paradoxes que l'on peut trouver dans la poésie de Thierry Metz. Donc Thierry Metz va occuper différents emplois. Il va travailler dans l'agriculture, dans les abattoirs. Il sera manœuvre également, des travaux qui lui permettent de gagner son pain, en quelque sorte. Il en est beaucoup question dans le journal d'un manœuvre. On peut donc dire qu'il vit quand même entre deux mondes, pleinement ancré dans le monde matériel du travail de manœuvre. D'ailleurs, il est assez amusant de constater que les personnes qui l'ont rencontré soulignent qu'il avait une carrure tout à fait impressionnante. Il faisait de l'haltérophilie, il a été champion d'haltérophilie, il a été champion d'Île-de-France. Et puis moi, j'ai rencontré un poète, Jean-Pierre Chambon, qui m'a dit qu'un jour, lors d'une lecture, il n'arrivait pas à trouver une place de stationnement. Et c'est Thierry Metz qui a soulevé la voiture pour qu'il puisse se garer. Et puis Didier Péris, son éditeur, raconte lui aussi que Thierry Metz pouvait casser les noix entre ses mains, ce qui impressionnait beaucoup son fils. Donc il y a ce côté force de la nature. Et c'est peut-être important de le souligner parce que Par ailleurs, il y a aussi cette aspiration extrêmement forte à la poésie qui peut s'exprimer dans la revue Résurrection, qui commence à le publier en 1978.
Alors, la revue Résurrection, pour situer en deux mots, c'est une revue fondée par des résistants, hein, d'inspiration chrétienne.
Oui, exactement. Elle est dirigée par Jean Cussablanc, en fait. Et c'est une revue qui publie des textes d'inspiration surréaliste et également marqués par l'école du Rochefort. Et les premiers textes de Thierry Metz seront marqués par ces deux écoles.
Pour compléter juste un petit peu ces quelques éléments biographiques que vous nous donnez, hein, on peut dire qu'il a une famille aussi, il a eu une famille, il rencontre assez jeune sa femme Françoise, qui est la bien-aimée du titre de ce recueil qui donne ce titre à ce volume qui nous réunit aujourd'hui, hein, Lettre à la bien-aimée, c'est Françoise. Et ils ont eu trois enfants, Guillaume comme Apollinaire, ai-je lu, Vincent comme Van Gogh, et puis Thomas comme Thomas de Quincy. Mmh. Trois enfants dont malheureusement celui du milieu... Vincent est mort très jeune, à l'âge de 8 ans.
Oui, le 20 mai 1988, donc renversé par une voiture. Hein, justement, la Nationale passait le long de cette maison de Saint-Romain-le-Noble et il a été renversé, il a été tué donc par une voiture. Et effectivement, c'est bien sûr une tragédie de vie, mais c'est aussi une tragédie qui aura un retentissement extrêmement important dans l'œuvre de Thierry Metz.
Et on va en reparler bien sûr pour retracer un petit peu l'histoire des parutions de ces textes. Son tout premier recueil paru, si je ne dis pas de bêtises, c'est Sur la table inventée, qu'on trouve dans ce recueil Lettre à la bien-aimée. Comment est-ce qu'il en vient à être publié? Puisqu'on l'a dit, rien ne le prédestine à l'écriture et encore moins au monde littéraire, au monde de la publication. Comment ça se passe?
Oui, la première entrée en littérature et en publication, elle est permise par Jean Cussablanc, hein, qui va le soutenir de tout son poids, qui va même le recommander à Jean Grosjean. C'est lui qui lira en premier le manuscrit du journal d'un manœuvre et qui sera absolument bouleversé par le livre et qui voudra donc l'éditer chez Gallimard.
Jean Cussablanc, qu'il connaît parce que c'était son voisin, si j'ai bien
compris.
C'est
ça, il n'habitait pas loin, il est allé le voir.
Très heureux hasard.
Et d'ailleurs, Thierry Metz n'hésitait pas à aller voir comme ça ses contemporains, les poètes. Il est allé voir Lydie Lattas, à laquelle il a dédié le recueil Terre, dont je parlais tout à l'heure. Donc, effectivement, je pense que c'était quelqu'un de social. En fait, hein, qui allait vers les autres. Oui.
Un petit mot peut-être sur le journal d'un manœuvre. Éric Villard, vous disiez que c'est le livre par lequel vous l'avez découvert. Je crois que c'est le cas de pas mal de ses lecteurs. C'est son livre le plus connu. On peut dire qu'a rencontré vraiment une sorte de succès qui a été lu par plusieurs personnes. Donc publié chez Gallimard par Jean Grosjean, préfacé par lui. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce texte, donc 1990?
Oui, alors c'est un texte étrange au fond, puisque c'est d'une certaine façon, c'est comme une promesse que la littérature avait faite dès le départ, mais qu'elle n'avait jamais tenue jusqu'à présent. C'est-à-dire qu'au fond, la littérature prétend, et la poésie surtout, que n'importe qui, au fond, n'importe quelle personne, piochée dans la vie sociale, aurait une subjectivité effusive, elle aussi, qui pourrait dire des choses tout à fait intéressantes sur la vie telle qu'elle est, etc. Or, on sait très bien que ça se produit pas du tout. Quand ça se produit, même, elle-même peut être ressentir une sorte d'injonction intérieure qui la pousse à écrire sur toute autre chose que la vie dont elle vient ou qu'elle mène. Et là, avec ce livre, on a une étrange surprise, puisque ça s'appelle Journal d'un manœuvre. Ça a donc un titre qu'on peut dire trivial, d'une certaine façon, vous voyez, simple, mais assez inattendu. C'est tout de même rare qu'un manœuvre écrive son journal. On a l'habitude des journaux du cardinal de Ré, etc., mais pas d'un manœuvre. Et là, précisément, dès qu'on l'ouvre, ce qu'il y a de tout à fait frappant, c'est la hauteur de la prose. C'est pas seulement un témoignage, c'est aussi un témoignage. Il y a une sorte de narration à la fois visible et invisible, discontinue, disons. On peut dire qu'un grand nombre d'aspects de la vie d'un manœuvre sont abordés, sont présents en tout cas, mais sans cesse tout ça est repris dans une forme d'éblouissement, de fatigue aussi, les sensations sont très présentes et au fond, cette vie est à la fois une vie aliéné, pour une part, il le dit à plusieurs reprises, il évoque l'argent, il évoque les rapports de pouvoir sur un chantier, il évoque la dureté aussi de la matière, cette effroyable matière, dit-il dans un autre poème, mais également, il y a une sorte de beauté, tout comme Rancière, au fond, cherche tout le temps à ménager une position où il n'y aurait pas de mépris, si vous voulez, où on pourrait parler d'une activité manuelle sans mépris, ou d'une activité intellectuelle qui viendrait du travail manuel, et bien là, au fond, elle se réalise, c'est-à-dire que par l'éblouissement poétique, eh bien, le mépris s'évapore.
Oui, on peut dire que très concrètement, hein, c'est un livre qu'il écrit en marge, le soir, quand il rentre, ou le matin, à côté d'un chantier sur lequel il travaille. Il est embauché par une usine d'intérim, hein, c'est un travail temporaire, et il y a des entrées par date. Le récit court de juin à novembre 1990 sur...
1987, en fait.
1987, oui. Pardon. C'est le livre est publié en 90, autant pour moi. Donc, de juin à novembre, sur quelques mois. Je vous propose qu'on écoute Thierry Metz lui-même. Il était reçu en 1990, l'année de la parution du livre, dans l'émission Voix du silence. Et il parlait justement de ce journal d'un manœuvre et puis du lien dans son travail entre précisément la dimension physique du travail et l'écriture. On écoute.
J'ai pas envie de faire autre chose et j'ai pas envie de me fixer dans un travail à temps plein, définitif, jusqu'à une hypothétique retraite. J'ai besoin d'aller de l'un vers l'autre, d'aller physiquement quelque part et d'aller glaner là-bas ce qu'il y a. C'est parce que c'est pénible là-bas que je peux trouver les choses les plus belles, les plus fragiles à la fois, les plus cassantes. C'est dans ce rapport-là, déchirant, bien sûr, il faut tenir, quoi. C'est de l'endurance. Que je peux aller jusqu'au livre. Pas question d'écrire le livre comme ça toute la journée, d'une manière professionnelle. Au contraire, que le livre soit très pauvre, qu'il se simplifie de plus en plus, sans que ça soit une épure, une abstraction, mais qu'il soit maladroit. J'aime quand un livre est maladroit. J'ai du mal devant les écritures parfaites. Devant Paul Valéry, par exemple, je sue là, par exemple. C'est une écriture de la sueur pour moi. J'aime quand le livre se casse, se fragmente, qu'on peut le toucher, le palper, l'offrir autour de soi, bribe par bribe, morceau, n'importe comment. C'est cette relation-là. Mais dure, bien sûr, tant mieux que ce soit dur, puisque c'est mon choix.
Thierry Metz, en 1990, sur France Culture, que le livre soit très pauvre, dit-il, qu'il simplifie de plus en plus. Il s'exprimait là à propos du journal d'un manœuvre, mais c'est peut-être un fil qu'on peut tirer, celui-là, cette forme de pauvreté, de simplicité dans l'écriture pour l'ensemble de son œuvre. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot, Isabelle Lévesque, des différents recueils qui sont rassemblés dans ce volume Lettres à la bien-aimée, je les nomme. Il y a donc Autour de Lettres à la bien-aimée qui est paru en 95, Sur la table inventée, un recueil paru en 89, Entre l'eau et la feuille, 1991, Le drap déplié, 95, Tel que c'est écrit, un si beau titre, en 95. Et enfin, Carnet d'Orphée et autres poèmes, recueil paru de manière posthume en 2011. Est-ce qu'il y a une cohérence dans cet ensemble-là qui se trouve rassemblé dans ce volume ?
Je pense qu'effectivement, il y a une cohérence, en dépit des dates d'écriture tout à fait différentes. Il y a une cohérence du point de vue thématique. On retrouve dès le premier livre cette espèce de déchirure qui, toute sa vie, parcourra Thierry Metz et parcourra ses livres, avec l'impression que quelque chose manque, quelque chose a toujours manqué en fait. Il y a une sorte de douleur qui est présente dès les premiers poèmes, dès les premiers livres, douleur qui va bien sûr s'incarner dans la suite de sa vie, mais elle est présente dès le départ. Elle est présente à travers certains visages, elle est présente aussi à travers une réduction du vocabulaire, à travers des formes négatives qui sont récurrentes, mais c'est aussi cette forme de pauvreté apparente de la langue et ce tourment, c'est aussi ce qui constitue sa langue propre. On a parlé du journal d'un manœuvre, on a l'impression que dès le journal d'un manœuvre, en fait, son écriture est fixée, c'est-à-dire qu'elle mélange la prose. Éric Guillard le disait, on nous raconte certaines journées ou certains éléments de certaines journées, et en même temps, par le vers, on tire des enseignements, on essaie d'atteindre quelque chose qu'on ne peut pas atteindre. Ça, c'est présent, en fait, dès le début. C'est la forme, en fait, qui va évoluer, parce qu'au départ, on a des poèmes en vers, et ensuite, dans le journal d'un manœuvre, mais ce sera le cas aussi pour les lettres à la bien-aimée, on a des phases de récit, et le poème qui intervient dans ce récit. Donc ça, c'est quelque chose de très précieux, parce qu'en fait, on a l'impression qu'on peut accéder directement au livre, à la poésie de Thierry Metz, à son récit, et en même temps, on est emporté ailleurs. On est ici et ailleurs. Et d'ailleurs, il y aura toujours cette tension dans les poèmes de Thierry Metz, un fort ancrage, mais aussi une aspiration à autre chose, aspiration qui va pouvoir être traduite par des figures aimées, mais aussi par des oiseaux, par l'aile d'un ange, par il y a une espèce d'aspiration à la verticalité. D'ailleurs, il était un grand lecteur des poésies verticales de Roirot, Thierry Metz, et cette aspiration et ces contradictions sont présentes dès les premiers livres.
Et puis pour dire un mot, je réalise en vous écoutant Isabelle Lévesque, pour parler de sa biographie, on n'a pas dit qu'il s'était suicidé, hein, donc très jeune, je l'ai dit, à 40 ans, et que la fin de sa vie...
Fin de sa vie est terrible. La fin de sa vie est terrible parce que à partir du moment où Vincent meurt, les choses vont se précipiter en quelque sorte. Il avait déjà tendance à être alcoolique, il avait des moments suicidaires. Ça va s'accentuer en fait. En 1995, il va partir pour Bordeaux. Pendant 2 ans, ça va être une vie absolument difficile. Il va être aidé par certains amis, un éditeur, Didier Périz. Il va avoir un emploi dans une bibliothèque. Donc, il va tenir plus ou moins, mais avec plusieurs séjours volontaires en hôpital psychiatrique.
Oui, qui marque tout de même un combat de sa part, enfin l'envie de
d'échapper. Et une volonté de s'en sortir. Ouais. Et d'ailleurs, il y a beaucoup dans sa poésie ce thème d'échapper à quelque chose, d'en sortir. Il y a une volonté quand même de surmonter en fait une difficulté à vivre. Et le poème, justement, devient aussi un instrument pour essayer d'échapper à quelque chose de terrible.
Un mot sur cette dimension,
oui,
Eric Villard.
On a même le sentiment, enfin, en vous écoutant, je me disais, il invente aussi une certaine forme de livre. Je veux dire que pas seulement dans le sens où je le disais au départ de ce nouage dont on a parlé, mais entre, disons, pour le dire vite, le travail manuel et la poésie, mais aussi ces livres ont une consistance propre. Il y en a au moins 3 d'entre eux, le journal d'un manœuvre, les lettres à la bien-aimée, et puis l'homme qui penche, sont des livres qui ont une sorte de logique interne. Ce ne sont pas des recueils. On a du mal à savoir ce que c'est. Mmh. Tout comme dans la poésie, on a eu par exemple Saint John Perse, je pensais à ça, avait aussi une sorte de donner une consistance à ces recueils. Mmh. Anabase nous raconte aussi quelque chose à travers la pluie de mots de Saint John Perse. Et là, c'est d'une certaine façon un peu pareil, à sa manière, d'une manière tout à fait différente. Évidemment, on a des livres qui, pour une part, rejoignent aussi une forme de narration, scande sa vie. Mmh. On voit le travail, l'amour et la mort, et puis la folie ou la fragilité, en tout cas, avec l'homme qui penche. Mmh. Et donc, voilà, ce sont des nœuds très particuliers entre, on peut dire, la méditation, vous évoquiez ça, et puis une histoire et la poésie ensemble, en quelque sorte.
Vous parliez d'une histoire, il y a aussi les portraits qui sont faits des personnes qui sont rencontrées, les compagnons de travail dans le journal d'un manœuvre et dans l'homme qui penche aussi, justement, les malades. Et ces portraits-là sont des portraits de fraternité, d'humanité, et sont aussi sans doute des alliés pour essayer d'échapper à quelque chose.
Oui, c'est une poésie extrêmement ouverte à l'autre, aux autres, de façon générale, et qui, en effet, se lit d'une manière... C'est extraordinairement accessible, quoi. Il faut dire quand même que la poésie, souvent, ça fait peur aux lecteurs que nous sommes, et que là, on a accès à une... C'est pas exactement de la narration, mais c'est pas non plus exactement ce qu'on entend par le mot poésie si on met derrière ce mot cette chose effrayante dans l'accès qu'on peut avoir.
Oui, ou éthéré.
Voilà,
c'est le contraire. C'est-à-dire, ce qu'il y a de très curieux, c'est que c'est à la fois sans doute il y a une poésie de la vie quotidienne, comme on le disait tout à l'heure, les outils reviennent très souvent, etc. Il y a une poésie des objets. On peut penser à Ponge, mais à un Ponge de ce point de vue-là qui serait plus sérieux quant au rapport aux objets, puisqu'il les manierait réellement. En même temps, la tension est que ces objets sont d'une certaine façon des objets. Il parle de pénibilité, de dureté dans l'extrait, mais aussi ont une beauté. En fait, il parle de cette beauté. Il dit là, je notais, c'est pénible, mais les choses sont aussi les choses les plus belles.
C'est aussi parce qu'elles ont une utilité.
Oui.
Ouais. C'est vrai que cette notion d'utilité dans le travail donne aussi un point d'appui.
On va déplier tous ces éléments que vous avez posés en introduction, Isabelle Lévesque et Eric Villard. Mais on s'offre un petit moment musical. Je vous propose qu'on écoute un titre du duo suisse Remour qui s'appelle « Mélancolia ».
France Culture, le Book Club, Mathilde Wagman.
Et si ce qui est le plus commun à toute vie humaine, le plus partagé, le plus universel, avait été négligé par la poésie ? Si l'expérience quotidienne du travail, les tâches familiales, les activités concrètes des hommes, leur vie réelle, leurs relations égalitaires, avaient été tenues écartées de la longue phrase humaine ? Thierry Metz fut ouvrier agricole, bûcheron, manœuvre. Celui qui gagne sa vie par un travail manuel, dur, répétitif dans le plein air du monde, ne peut oublier ni la main, ni les cassements du corps, ni l'épreuve du labeur, ni la compagnie d'autres hommes. Il peut même découvrir ce que les poètes plus favorisés par le sort n'avaient pas vu jusqu'ici, pas senti. Il a le privilège, le seul qui vaille, de ne pas abandonner ce qu'en réalité le plus grand nombre partage, la plaine alluviale de la vie quotidienne. Cette poésie est un avènement dans l'histoire. Ce sont les mots qui ouvrent la postface que vous signez, Éric Vuillard, pour ce volume qui rassemble 6 recueils du poète Thierry Metz et qui s'intitule « Lettre à la bien-aimée et autres poèmes ». Il vient de paraître dans la collection Poésie de Gallimard et on continue d'en parler avec vous, Éric Vuillard, et avec vous, Isabelle Lévesque, qui le préfaçait. Isabelle Lévesque, vous avez bien voulu, pour cette émission, nous aider à faire un choix de texte pour qu'on entende la matière même de la langue si singulière de Thierry. Je vous propose que l'on vous écoute nous lire un premier ensemble extrait de différents recueils parus dans ce volume. On vous écoute.
Eux, toujours parlant soudure, parlant de pierre, de gravats, blessés aux mains dans le château absurde, malgré cela, se promène. L'auge remplie de chaux, le chemin de planches, les pierres, rien ne m'écarte du soleil, ni le plein, ni le vide, dans ce peu de fraîcheur que je trouve de poser les seaux, de les remplir. Je dois sur le madrier me tenir, toucher le livre à vide, comme si ma main en bas remontait avec la corde, avec tout le poids d'un mot inaudible. J'ai fini le toit aujourd'hui. Demain, je commencerai la porte en passant par les branches. Je n'ai quitté mon visage qu'un instant, à midi, pour le laver, pour lui trouver un peu de lumière, un peu d'herbe. Chaque jour, je remonte le bois sec sur mon épaule, comme un corps que j'aurais trouvé sous un arbre, n'ayant plus que lui pour nous réchauffer.
Merci beaucoup Isabelle Lévesque pour cette lecture, cette première incursion dans la matière même des poèmes de Thierry Metz. Ce sont des textes extraits donc de différents recueils, Entre l'eau et la feuille, Le drap déplié et Tel que c'est écrit. Pour évoquer avec vous la constance peut-être d'abord d'une forme. On n'a pas encore nommé la forme singulière de ces poèmes et quelque chose qu'on retrouve tout au long de la vie d'écriture de Thierry Metz. Tout d'abord, tout simplement, cette brièveté. Ce sont des poèmes, la plupart du temps, très courts, même on peut dire, je crois, toujours très courts. Qu'est-ce qu'on peut dire à propos de ça? Moi, j'ai pensé, évidemment, on pense à la forme du haïku, même si c'est très différent en réalité du haïku, je crois. Qu'est-ce qu'on pourrait dire à ce sujet, peut-être, Éric Vuillard, sur la brièveté même des poèmes?
Je pense que tout d'abord, il y a une grande attention liée au rythme. en fait, qui est à la fois une attention moderne, en fait. Voilà, la poésie a toujours été attentive au rythme, mais là, on sent bien par les rejets d'un mot en dessous, les espaces blancs, que la mise en page aussi compte. Qu'il y a comme une sorte de goutte à goutte des mots qui est liée à la fois à quelque chose qui nous concerne tous et qui, chez lui, est très vif, je crois. C'est à la fois une confiance et une défiance dans les mots. Quand, de surcroît, et on est obligé d'y revenir avec lui, on travaille sur les chantiers, on sait ce que valent certains mots. Et nous savons tous aussi ce que valent certains mots dans la vie sociale. Il y a un côté fausse monnaie chez les mots. Et d'une certaine façon, la poésie s'affronte à ça. Mais elle ne peut pas prendre ses propres mots non plus comme étant des mots si différents des autres. Surtout Thierry Metz, puisque ces mots, au fond, sont des mots qui sont en circulation. Vous voyez, c'est un candidat libre en poésie, d'une certaine manière. Ce mot, tout à l'heure, cette expression m'a frappé. Vous voyez, je pense que la brièveté, en partie, est liée à ça. C'est-à-dire que, pour prendre un poète à l'opposé qui est dans l'élan total, vous voyez Victor Hugo, quelle position sociale, quel type, et j'aime beaucoup les poèmes par ailleurs de Victor Hugo, mais pour pouvoir se laisser emporter à ce point par les mots, de quelle confiance il faut disposer d'une certaine façon dans l'avenir de l'homme, la vie sociale, etc. Je pense que Thierry Metz est dans un autre rapport, et surtout, je pense que pour une part, il souhaite éviter la trahison qui, malgré tout, est là en embuscade.
C'est intéressant, cette idée de la brièveté comme une réponse à une forme de méfiance, peut-être, vis-à-vis de la langue. Je me souviens que dans votre postface à Éric Villard, vous parlez de la langue comme d'un appôt, donc peut-être, il faudrait faire attention à ne pas être complètement aspiré par la musique des mots. Et en même temps, il y a aussi, il me semble, dans cette brièveté, quelque chose de la matérialité du mot même, et non pas seulement des choses que le poème évoque. Le mot comme une table, le mot comme quelque chose de solide. Il y a ça aussi, Isabelle Lévesque.
Il y a ça aussi. Je voudrais simplement compléter quelque chose par rapport à Eric. Il y a une défiance face au langage, parce qu'aussi, il faut que le langage soit juste à sa place, un peu comme les échanges entre le manœuvre et ses compagnons lorsqu'ils travaillent. Les gestes sont mesurés, les mots aussi doivent être mesurés. Et effectivement, le mot est pris aussi dans sa matérialité, c'est-à-dire que on construit un poème comme on construit un mur avec des pierres, on construit un poème avec des mots, et cette raréfaction en fait du mot est liée aussi à cela.
Oui, je me souviens que dans votre introduction, Isabelle Lévesque, vous dites le mot et non pas la phrase. Le mot comme un abri, parce que c'est vrai qu'il y a tout au long des poèmes, on retrouve très souvent cette métaphore, mais je ne sais pas si le mot est tout à fait juste, ce serait intéressant de réfléchir à ça. En tout cas, cette image du poème qui se construit en écho au travail du maçon qui bâtit la maison, mais vous dites le mot et non pas la phrase. On entend bien qu'il y a un travail du mot peut l'extraire de cette suite logique qu'est la phrase.
Le mot est un abri et peu de mots feront poème. Seuls les mots nécessaires feront poème. Et il y a vraiment cette écriture liée à une nécessité et justement à tout sauf du débordement. On n'est pas dans une expansion verbale. D'ailleurs, les verbes sont très souvent employés à l'infinitif, ils sont rarement conjugués. On est dans une sorte de travail de réduction pour ne garder que l'essentiel de la quête, en quelque sorte, et ne répondre qu'aux questions essentielles aussi, qui sont le pourquoi, qui revient très très souvent dans les poèmes de Thierry Metz, mais qui sont aussi complétés par la réponse peut-être, et l'ici, maintenant, toujours comme ancrage. Et justement, ces mots, ces noms, ces verbes sont aussi employés pour leur valeur seule, sans déterminant.
Et puis vous le mentionniez, Éric Villard, il y a en effet ces blancs laissés dans la page, c'est-à-dire le blanc qui entoure les mots eux-mêmes, et puis des blancs entre les mots, c'est-à-dire qu'au sein même d'une ligne, on trouve un espace, une respiration qui introduit un rythme, en effet, très particulier, très singulier, de lecture aussi, qui induit un rythme particulier de lecture de ces textes.
Oui, puis comme Isabelle Lévesque le disait, comme vous le disiez aussi, c'est il y a une matérialité effective des mots. Ils sont comme à la fois isolés et en même temps pas tout à fait isolés, donc ça crée des significations particulières. Ils me font penser, au fond, au premier texte, je crois, qui a été lu... avec ces bruits de pas qu'on entend autour de la maison et cette offrande avec quelques objets qui devraient suffire pour faire un livre, en fait, et qui sont quelques mots aussi. Mmh. Ces objets sont des mots pour nous. Au fond, ce sont des mots qui désignent des objets précis. Mmh. Et donc, à partir de ce moment-là, ce sont des mots dont l'ambiguïté sémantique est faible, apparemment. Et en réalité, ils sont chargés de beaucoup de choses, puis qui sont chargés, au fond, comme les outils. Je pensais au marteau, dans mon souvenir, l'espèce de trajectoire que le roi Gourand fait subir à certains outils dans ses livres. Et le marteau, c'est le percuteur au départ. En fait, du percuteur au marteau, on a toute une variation d'outils, mais il y a comme un cœur dans tout ça qui est le geste élémentaire, dont parle souvent Metz, des gestes, le geste élémentaire et les contraintes de la matière elle-même. Et bien, c'est comme si les mots aussi, d'une certaine façon, peut-être avaient leurs contraintes, et que c'est ça que j'évoquais par le fait de se méfier de la trahison. D'un autre côté, on peut le voir d'une autre manière, au fond, Metz, lui, souhaite se soumettre à une autre contrainte, interne aux mots, à leur signification élémentaire, et qui du coup rejoint aussi les contraintes de la vie réelle et de la matière.
Je me souviens que dans votre postface, Éric Vuillard, vous évoquez la nature morte en peinture, vous parlez de Chardin, vous parlez de Cézanne. Il me semble qu'il y a aussi dans le choix des mots de Thierry Metz un renvoi singulier aux choses mêmes, mais aux choses qui sont des objets du quotidien. La table, la chaise, le lit. Isabelle Lévesque, vous soulignez aussi que lorsqu'il renvoie à des choses de la nature, il préfère l'utilisation de termes génériques plutôt qu'il peut lui arriver de mentionner un rouge-gorge, mais plus souvent c'est l'oiseau, plus souvent c'est l'arbre. Mmh. Qu'est-ce qu'on peut dire à ce sujet-là, sur le poème comme une nature morte, peut-être?
Alors, j'ai le sentiment, je fais... Ça me fait songer à quelque chose qui est à la fois proche et éloigné, c'est que ça, au fond, il y a une dimension qu'on pourrait, à première vue, comme ça, penser être religieuse, d'une certaine manière. Le mot offrande, d'ailleurs, le mot quête que vous employez tout à l'heure. C'est-à-dire, au fond, il y a une sorte de religion séculière. C'est comme si, ça m'a fait songer étrangement à Steinbeck, qui prend des titres très religieux, vous voyez, les raisins de la colère, à l'est d'Éden, et qui les sécularise, qui leur donne une signification à certains égards plus forte que dans la Bible elle-même ou dans les textes dont elles viennent, c'est une signification générale et collective. Eh bien, au fond, là, c'est pareil. Quand il nous parle de la table, j'ai ce vers que j'ai noté, la table est mise, l'assiette est nue, c'est la scène. On peut pas ne pas penser à la scène seulement, c'est la scène que nous vivons chaque jour. Un peu plus loin, il écrit « Qui, dans cette plaie, retrouverait nos mains ?» parlant des mains de l'ouvrier. Mais on peut pas ne pas penser au Christ. Seulement, ça n'est pas une référence au sens où ça viendrait se superposer et ajouter une signification plus riche, disons, à la vie manuelle. Au contraire, ça replaque la religion sur quelque chose de qui, d'une certaine façon, est là, elle, présente, attestable, que nous vivons tous et que nous partageons tous. C'est un aspect, au fond, universel, qui est au cœur de la religion, mais qui, là, est séculier, c'est-à-dire, au fond, la grandeur est de ce monde.
La table est mise, l'assiette est nue, que survole une aile éclairée de bleu. Personne ne dit rien, c'est le petit jour, et du pain sur la nappe. Dire une clairière n'est possible que tôt le matin, avant la fable, quand le coq peut encore trier graines et hameçons. Je viens de lire deux poèmes extraits de ce volume, « Lettre à la bien-aimée » de Thierry Metz. Le premier, quel lapsus, figure dans « Tel que c'est écrit ». Et puis le tout dernier texte, et le tout dernier texte du recueil aussi. Voilà, « Dire une clairière n'est possible que tôt le matin ». Pour évoquer avec vous deux, Éric Vuillard et Isabelle Lévesque, ce que Éric Vuillard, dans votre postface, vous appelez « la Bible du petit jour ». Et rebondir sur ce que vous nous disiez, juste avant que je lise ces textes, il y a aussi une évocation dans les poèmes de Thierry Metz des heures de la journée. Il y a une présence du petit jour très singulière et qui renvoie aussi cette temporalité de la journée à un rythme propre qui est celui de ces textes, Éric Vuillard.
Le petit jour a une histoire poétique assez longue. Ça fait songer immédiatement, évidemment, à Villequier, à beaucoup de choses. Enfin, chacun d'entre nous, dans cette fraîcheur, y retrouve chaque jour, enfin, se trouve en quelque sorte momentanément lavé, rincé. Et Metz, je parlais tout à l'heure de ce sentiment de narration que j'ai, mais comme discontinu à la lecture de ces livres, et d'ailleurs de l'ensemble de ces livres, au fond. Mais on peut parler aussi d'une narration qui concerne chaque jour. Toutes les étapes de la journée, les étapes les plus importantes qui souvent sont finalement occultées pas seulement par la poésie, mais y compris par le roman qui parle pas de toutes les étapes essentielles de la journée. Il y a certains événements qui sont comme ça montés, qui composent un livre. Là, non, ces événements sont pas du tout écartés, au contraire. Ils sont sujets de légères méditations, de temps d'arrêt. Sur l'aube dont vous évoquiez, mais aussi le repas, les enfants qui jouent, les voix qu'on entend qui sont dans une autre pièce, voyez, ces choses qui tissent nos souvenirs, au fond, qui sont plus proustiennes d'une certaine manière que la recherche, voyez, une voix d'enfant qu'on entend au fond du jardin, et Metz est extrêmement sensible à ça, et c'est en faire aussi des petits objets de méditation.
Isabelle Lévesque, à ce propos, une réaction ?
Oui.
Non, mais vous n'êtes pas obligé, hein. J'avais l'impression que vous aviez envie de réagir. Je vous propose qu'on écoute un deuxième ensemble de textes que vous avez choisis pour nous. Isabelle Lévesque, on l'a dit, hein, la disparition, la mort très prématurée du fils de Thierry Metz, Vincent, quand il avait 8 ans, est très présente dans ses poèmes jusqu'à la fin de sa vie et dans ce recueil tout particulièrement. Et puis, le deuil et la douleur partagée avec sa femme, Françoise, qui a beaucoup contribué aussi à ce qu'on connaisse son travail jusqu'à aujourd'hui. C'est important de le mentionner. On vous écoute, Isabelle Lévesque, lire un deuxième ensemble de textes.
Jusqu'où t'écrire ? Jusqu'au sommeil ? Jusqu'au tournesol ? Viens. Derrière le travail, il y a une haie et une mort d'enfant. Je ne t'enfermerai pas dans la cuisine où nos mains ne sont que des attirances grises, le jeu de celui qui sera le plus absent. Où veux-tu aller malgré l'inévitable maison, son insistance à nous garder ? Rester là ne fait ni le dedans ni le dehors. Mais il y a les enfants, tu as raison. Un petit, un grand. Maintenant, je sais jusqu'où t'écrire. Avec eux. T'écrire, c'est construire la petite hutte de Nicolette, fleurie dedans et dehors, qu'il y ait juste assez de place pour deux amants, où filtre un rayon de lune. Et puis, quoi ? Une table, une chaise, par où entrera le coq avec la nuit ? Et quelques herbes. Ce sera pour celui qui écrit, chante et danse, trois visages dans un champ, et chacun aura la lune dans sa main. Tu es celle qui prévient de tout, du meilleur et du pire, d'une erreur, d'un mal, d'un manque d'argent, du temps qui va changer. Tu es celle qui veille dans mon regard pour le peupler d'urgence, de nécessité, pour que j'écrive. Une petite voix que nous connaissons bien nous rend visite le soir. Une voix d'enfant qui nous raconte ce qui se passe là-bas, comment sont les gens, ce qu'on y trouve. Lentement, il nous berce, nous accompagne jusqu'au sommeil, nous ferme les yeux. Non. Rien de cela, qu'une inépuisable, inexorable absence. Rien qu'une mort et un nom. Vincent.
« plusieurs poèmes extraits de Lettres à la bien-aimée, ce recueil qui date de 1995 et que vous avez eu la gentillesse de nous lire, Isabelle Lévesque, pour évoquer la présence au sein des poésies de Thierry Metz de cette absence et ce nom Vincent écrit en lettres capitales à la fin de ce recueil-ci. C'est ce qui me frappe en vous écoutant lire ces textes, Isabelle Lévesque, c'est l'association entre cette béance-là, cette absence-là, présente, si présente dans les textes, mais qui est associée d'une manière très singulière et très belle, je trouve, à cette adresse à la bien-aimée, cette adresse à Françoise, Éric Villard.
Oui, c'est ce qui m'a en fait, frappé avec le temps, puisque ce qui m'a frappé, c'est de ne pas l'avoir vu tout de suite, au fond, d'une certaine manière. C'est-à-dire, la première fois que j'ai lu le livre, je l'ai lu je me suis pris dans les mots, les émotions, mais j'avais pas vu. Il m'a fallu le relire des années plus tard, qu'à la différence de bien des livres que j'avais aimés par ailleurs et qui traitaient d'un drame ou qui, en tout cas, a été associé comme ça un drame, je pense à Mallarmé, notamment au tombeau d'Anatole, qui sont des notes qui ont été ensuite retrouvées et publiées très tard, mais où au fond Mallarmé parle de lui, de sa douleur et de l'enfant. Il essaie d'envisager une sorte c'est le temps dont il est question au fond dans ce livre-là, tandis que là, ce qui m'a véritablement frappé chez Metz, alors que justement Mallarmé c'est la culture française au sens la plus raffinée, vous voyez, c'est que Metz n'avait pas oublié une chose absolument élémentaire qu'à la première lecture je n'avais pas vue, qui est donc une chose élémentaire qu'on oublie peut-être tous, c'est qu'au fond un enfant se fait à deux et que donc à ce moment-là c'est à l'autre qu'on s'adresse. Et puis du coup ça a au fond ce qui est du coup devenu très important dans ce livre pour moi à sa lecture, c'est comment il essaie avec une grande franchise de s'approcher grâce aux mots, mais tout en se défiant d'eux en partie, de la dégradation d'une certaine façon de sa vie quotidienne, mais pas seulement. J'avais noté juste une petite chose qui m'a toujours beaucoup, un passage qui m'a toujours particulièrement ému et fait réfléchir, où il parle de, un petit peu comme dans le passage qui a été lu tout à l'heure, de ces silences entre eux, de cette difficulté dans l'existence. Il dit donc, il parle des mots qui vont toucher un fond, un endormissement, nécessaire à une continuité, des mots qui nous sauvent, que la souffrance ou l'habitude nous cachait. Et cette formule tente, je crois vraiment, d'approcher quelque chose de comment cette douleur transforme en fait chacun et comment elle transforme tout en fait, mais comment c'est très difficile à nommer.
Dans votre postface, vous relevez aussi ce vers, cette phrase que je trouve absolument magnifique pour dire l'attachement et la distance en même temps. Dans la maison, nous avons chacun notre table. Je trouve que voilà, tout est dit dans cette chose-là. Peut-être un mot pour conclure. Il nous reste pas beaucoup de temps, mais sur la dimension aussi. Allez, lâchons le mot politique de ces textes. La manière dont les autres existent dans l'œuvre de Thierry Metz a une force politique très forte. Un petit mot là-dessus, Isabelle Lévesque, pour conclure.
Alors effectivement, la force politique peut naître à la fois du récit qui est fait dans le journal d'un manœuvre, dans L'homme qui penche ou dans d'autres des livres de Thierry Metz. Elle est, je pense, fondée sur la fraternité en fait avec laquelle Thierry Metz dresse les portraits des personnages qu'il fréquente et qu'il nomme ceux avec lesquels on accomplit le travail sont dignes de respect parce qu'ils accomplissent ils sont à leur place et ils accomplissent en fait un travail. Éric Vuillard en parlait tout à l'heure. Il s'agit en fait pour chacun de trouver sa place. On sent aussi que Thierry Metz a essayé de trouver la sienne à la fois donc par ce travail de manœuvre, mais aussi par l'écriture. Il a tenté de trouver un équilibre en fait à travers ces deux activités. Je pense que l'équilibre naissait de cela. Et justement, le carnet d'Orphée, par exemple, ne se fonde plus sur les gestes du quotidien, ne se fonde plus sur la relation véritablement à l'autre. Les autres sont appelés, mais absents en fait. C'est ce lien que tente de restaurer Thierry Metz et qu'il tente d'établir pour justement s'échapper et surmonter la douleur.
Je n'ai pas été maçon pour rien et je n'y suis pas venu pour la seule nécessité. J'ai vite appris que les murs du livre et de la maison sont percés d'ouvertures. C'est dans les carnets d'Orphée, ce recueil que vous citiez justement, Isabelle Lévesque. Le book club continue.
France Culture, le book club, Mathilde Wagman.
Et comme chaque mardi arrive le moment de nous intéresser un peu à la littérature jeunesse, et c'est vous, Raphaël Bott, qui allez nous en parler cette semaine. Bonjour Raphaël.
Bonjour Mathilde.
Raphaël, vous êtes journaliste et vous suivez ce champ littéraire depuis de nombreuses années. Nous profitons des vacances de la Toussaint pour une promenade en forêt aujourd'hui avec Taupe et Mulot de Henri Meunier et Benjamin Chaud. Un nouvel opus vient de sortir et c'est l'occasion de s'arrêter sur ce qui fait la belle identité de cette série.
Et cette identité, Mathilde, je trouve qu'elle commence par l'objet. C'est important. Pourtant, parce qu'un livre, ça se touche, ça se tient dans les mains. Là, la couverture est gaufrée, on sent des fines rainures et cette texture rappelle une sensation pas si éloignée au fond de celle du tronc d'un arbre. Ça tombe bien, car en l'ouvrant, on entre dans un bois. Plus qu'un décor, c'est un petit théâtre qui apparaît.
Un petit théâtre dans lequel on rencontre donc Taupe et son ami le mulot.
Et ces deux-là, ils sont inséparables. L'une regorge d'imagination et porte en permanence des lunettes de soleil, puisqu'elle voit très mal. L'autre est à la fois plein de vie, d'envie, aussi un peu anxieux, un peu empêché. Chacun se soucie toujours de l'autre et au fil des saisons, chaque nouveau livre suit leurs aventures du quotidien, leurs questionnements, sous forme d'histoires courtes. Ce nouvel opus est en fait une bifurcation, une sorte de nouvelle série dans la série, pour s'intéresser davantage aux personnages secondaires des aventures précédentes, à la vie dans la forêt un peu plus largement. Alors côté histoire, Musaraigne, Léraud, Taupe et consorts participent au troc-noisette organisé par Écureuil. C'est une sorte de jeu de pistes où chacun doit cacher des réserves pour l'hiver et ne pas oublier les planques. Ce jeu, c'est aussi l'occasion pour Écureuil de dévoiler des sentiments à Mulot.
Bon, mais au-delà de cette sympathique intrigue, Raphaël, quels sont les ingrédients qui permettent de poursuivre les histoires sans tomber dans le livre de trop, dans la déclinaison parfois un peu facile avec les séries?
Alors là, Mathilde, c'est pas le cas. En tous les cas, pas encore. Il y a une vraie densité qui permet de poursuivre, d'avoir un nouveau livre. Je dirais d'abord que cela tient beaucoup à l'écriture. Henri Meunier propose un texte ciselé. Les phrases sont courtes, le rythme enlevé. Et vous remarquerez surtout des mots délicats, voire un peu désuets. Musaraigne virevolte, elle utilise un chasse-goupille, elle passe aux commodités, elle porte une robe d'apparat. Ce vocabulaire y participe à l'ambiance, il ne fait pas obstacle, le contexte permet toujours à l'enfant d'en comprendre à peu près le sens et il participe très finement à ce sentiment de partager quelque chose de précieux. L'autre force de Taupe et Mulot, elle est apportée par les illustrations. On retrouve le trait arrondi de Benjamin Chaud, ses couleurs aussi vives que chaudes, un peu surannées aussi parfois à l'image du vocabulaire de son acolyte. Et le jeu d'échelle nous place au ras du sol, au plus près de cette bande de rongeurs. On ne voit jamais la cime des arbres, on cavale au niveau des racines. J'ai envie d'insister aussi sur son sens du détail. Là, des pantoufles à pompons pour Écureuil. Plus loin, un petit cœur dessiné sur un papier dans la main de Mulot. Le récit s'installe par ici. Les mots et les illustrations se complètent. Parfois, un décalage apporte de l'humour. D'autres fois, c'est un élément décisif pour comprendre. L'ensemble, c'est du sur-mesure pour s'aventurer seul dans la lecture autonome. Lire les mots et lire les images. Nous sommes entre l'album et le roman. Même le format du livre joue sur cet entre-deux. C'est pas aussi épais et petit qu'un roman impressionnant. Et c'est moins grand qu'un album enfantin.
Alors les albums jeunesse, on le sait bien, regorgent d'animaux. La fable animalière, c'est une longue tradition de la littérature jeunesse. J'imagine que Taupe et Mulot s'inscrit dans cette continuité-là.
On peut évoquer rapidement ce qu'on appelle l'âge d'or anglais à la fin du 19e et au début du 20e. C'est à ce moment-là, par exemple, qu'ont été publiés des grands classiques du genre. Vous connaissez certainement Pierre Lapin de Beatrix Potter.
Bien sûr.
Voilà, ou encore Du vent dans les saules de Kenneth Graham. Et on a bien les deux pattes dans cette tradition littéraire avec ces animaux humanisés. Ils portent des vêtements, mais ils vivent dans leur environnement naturel. Ils sont fidèles à leurs caractéristiques biologiques. Ils hibernent, ils font des réserves, ils sont végétariens. Et là, pour Henri Meunier, Meunier et Benjamin Chaud, l'hommage non dissimulé est plutôt à trouver du côté de Ranelot et Buffolet, une grenouille et un crapaud inséparables créés par l'américain Arnold Lobel dans les années 70. Eux aussi sont meilleurs amis et les histoires sont celles de leur quotidien au fil des saisons. On y retrouve la même convocation des émotions. Alors l'idée, c'est vraiment pas de faire un cours de littérature, de l'histoire de la littérature jeunesse quand on met un livre dans les mains d'un jeune lecteur, au secours, mais c'est plutôt de tisser des passerelles, de chercher des échos, de faire vivre ce patrimoine de façon simple, de bifurquer, se retourner. C'est ça aussi un parcours de lecteur, comme un chemin dans la forêt pendant les vacances.
Et on souhaite de bonnes vacances à tous nos auditeurs, jeunes auditeurs. Le Troc-Noisette d'Écureuil de Henri Meunier et Benjamin Chaud, apparu aux éditions Helium. Toutes les références à retrouver sur le site de la chronique Lecture Jeunesse sur l'application Radio France. Comme chaque jour, en fin d'émission, nous jouons à notre grand jeu des pages musicales. Chers auditeurs, chères auditrices, continuez à nous envoyer vos suggestions. Si parmi vos lectures, vous repérez un passage qui mentionne un air musical, prenez-le en photo et envoyez-le nous via le compte Instagram de l'émission ou sur le mail lebookclub@radiofrance.com. Thierry Metz, dont on a parlé aujourd'hui, aimait beaucoup le piano. Il en jouait, il en écoutait Bach notamment. Mais aujourd'hui, on suit la suggestion de Lise Adi qui nous a envoyé via le mail de l'émission du Book Club extrait d'un roman de Rime Batal, Je me regarderai dans les yeux. Il a paru en 2025 chez Bayard. On l'écoute. J'avais peur de finir aride et seule, abandonnée comme cette région. Par la fenêtre mouchetée de poussière collée sur d'antiques gouttes de pluie qui avaient séché, je regardais ces cailloux avec désolation, envahis de nouveau par le néant douloureux dans lequel j'étais soudain jetée, dans ma vie qui avait basculé d'un coup dans un immense je ne sais quoi de flou et de tentaculaire. En 24 heures, ma vie avait déraillé de manière brutale. Dans mes oreilles, Beth Gibbons chantait « Mysteries »,« Oh, mysteries of love »,« Where war is no more »,« I'll be there anytime » et exacerbait mon affliction.
God knows how I adore life. When the wind turns on the shore lies another day. Time bell blows my heart and I have scored a better day. Well, nobody made this war of mine, and the moments that I enjoy are place of love and mystery.
Très grand merci Isabelle Lévesque et Éric Guyard d'avoir été avec nous aujourd'hui pour parler de la poésie de Thierry Metz. Allez la lire, le recueil Lettres, le volume Lettres à la bien-aimée et autres poèmes apparus vient de paraître dans la collection Poésie de Gallimard. Et je rappelle aussi le titre de ce très beau film, L'homme qui penche, de Marie-Violaine Brincard et Olivier Durie, qui est apparu en DVD et qui est disponible en VOD sur toutes les plateformes. Aujourd'hui à la prise de son, c'était Jean-Guilain Meige, à la réalisation Vivien Demeyer. Un grand merci à toute l'équipe du Book Club et tout particulièrement aujourd'hui à Léa Weisgruss.